Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Hello, this is Harold Singer. You're listening to Radio France International. And thank you very, very much. Merci beaucoup, mille fois.
Ce son velouté issu de la grande tradition jazz afro-américaine s'échappe du saxophone ténor d'un virtuose du nom d'Harol Singer, ou Al Singer pour les intimes. Ce monsieur naquit il y a 100 ans, le 8 octobre 1919, à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il fait partie de cette génération de musiciens dont les noms n'ont peut-être pas brillé en lettres d'or sur les frontons des grandes salles de spectacle, mais dont la contribution valeureuse à l'épopée des musiques noires est indéniable. Sans ces précieux artisans du son jazz, les big bands de Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton ou Dizzy Gillespie n'auraient peut-être pas connu une telle destinée. Ainsi, Al Singer représente une part de mémoire, l'un de ces témoins privilégiés qui ont transmis le message du swing ancestral jusqu'au XXIe siècle. Il nous paraissait impossible de ne pas célébrer aujourd'hui le centenaire d'Harold Singer. Nous sommes au cœur des années 40. Al Singer est un jeune jazzman de 25 ans qui écume les clubs de la 52e rue à New York aux côtés de stars d'alors, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, Don Byas, Red Allen et quelques autres. Cette flopée de joyeux drilles fait bouillonner le bebop comme pour échapper à un contexte social particulièrement difficile, notamment lorsqu'on a le malheur d'être un noir dans une Amérique ségrégationniste.
We suffered a lot, but the guys live for the music.
Nous avons beaucoup souffert, mais notre génération se raccrochait à la musique. Nous étions impatients d'aller jouer sur scène. Mais quand nous avions des opportunités pour faire partie d'un orchestre blanc, où l'on nous payait davantage, nous déclinions l'invitation systématiquement. D'ailleurs, lorsque Cootie Williams a quitté le grand orchestre de Duke Ellington pour celui d'un blanc, Benny Goodman, c'était un sacrilège à nos yeux, même si le salaire était plus alléchant. Lorsque certains d'entre nous ont franchi le pas et choisi de jouer aux côtés de musiciens blancs, ce fut le cas de mon vieux camarade Roy Eldridge, il me racontait que les conditions de vie étaient très difficiles. On ne pouvait pas, en tant que noir, séjourner dans le même hôtel que les autres musiciens, on ne pouvait pas manger dans les mêmes restaurants, ou alors il fallait passer par les cuisines. Roy a fini par craquer nerveusement. Il ne supportait plus cette pression constante qu'exerçait l'administration blanche, la police, ou même l'Américain blanc moyen dans la rue qui vous regardait avec un œil accusateur, qui vous dénigrait sans cesse. Alors nous restions dans le quartier noir, nous n'avions pas le choix. Là, on se sentait libre, on pouvait être nous-mêmes, nous reposer un instant et jouer pour les gens du coin cette merveilleuse musique que nous aimions tant.
But over on that side of town, we felt freedom and we could relax and just be ourselves and play beautiful music for the people.
Est une excellente année pour Al Singer. Il entre dans l'orchestre de Duke Ellington. Fort de cette notoriété nouvelle, il enregistre son premier disque sous son nom Cornbread. Le succès est tel qu'il monte son orchestre de Rhythm and Blues et pendant 10 ans, il tourne dans le monde entier. Al Singer en 1948 sort sur une humeur nouvelle qu'on appellera bientôt le rock'n'roll. Mais pour le moment, cette musique de nègre, comme on le disait à l'époque, doit rester à sa place et elle n'est diffusée que sur les radios de la communauté noire. Qu'à cela ne tienne, Al Singer est confiant et ses nombreux contrats discographiques le hissent au rang des saxophonistes les plus réputés. Billie Holiday, Big Joe Turner ou Ray Charles ne cachent pas leur fierté d'être accompagnés par ce jeune homme plein d'avenir.
People too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie boogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around.
Les années passent, Al Singer est constamment sur scène, réclamé par Coleman Hawkins, Dinah Washington, Wilson Pickett, Dexter Gordon et tant d'autres. Mais si la période est faste professionnellement, les assauts répétés d'une Amérique raciste égratignent chaque jour davantage l'enthousiasme du musicien. Anecdote. J'ai joué un jour avec Nat King Cole. Il était déjà une grande star. Il venait d'enregistrer Nature Boy. Nous avons tourné dans les États du Sud. Le public était composé de blancs et de noirs. À la fin des concerts, il nous demandait des autographes. Il venait nous saluer. Après le concert, nous allions dîner dans le restaurant du quartier, parfois dans la rue d'en face. Et ces mêmes personnes qui nous avaient acclamés nous lançaient en pleine figure « Et toi, le nègre, dégage de là. Ou si tu veux manger, passe par les cuisines. » Voilà ce que nous devions subir chaque jour. Autre exemple, j'ai joué dans un orchestre de 36 musiciens, un big band composé exclusivement de jazzmen blancs. C'est le batteur qui m'avait obtenu le poste, j'avais besoin d'argent. J'étais le seul noir dans ce groupe. Et il m'est arrivé de me faire refouler à l'entrée de la salle où je jouais. Le type de la sécurité me demandait où j'allais ou ce que je venais faire ici. Je répondais à chaque fois que j'étais l'un des musiciens de l'orchestre et à chaque fois, on me refusait l'entrée, au point qu'il a fallu demander à l'un de mes collègues de venir me chercher pour me permettre d'entrer dans la salle où je jouais. Un comble. On traversait vraiment des instants terribles parfois.
Members of the band come and get me to help me get in. You know, you run through some horrible things.
Mm-hmm.
Arrêtons-nous un instant. Avant de poursuivre cette évocation d'une Amérique embourbée dans ses contradictions, remontons le cours de l'histoire, quand Al Singer n'était qu'un jeune adolescent au milieu des années 30.
I didn't exactly plan to be a jazz musician.
Je n'ai jamais imaginé que je serais un jour musicien. Quand j'étais au collège, les fanfares arpentaient les rues de ma ville avant les matchs de football américain ou de basketball. Très jeune, je suis devenu l'un des membres de ces orchestres itinérants. L'un des musiciens m'a alors demandé si je voulais monter un groupe avec lui. J'ai accepté. Notre répertoire s'inspirait beaucoup de celui de Count Basie. Il faut se souvenir que les membres de son orchestre venaient principalement d'Oklahoma City, non loin de ma ville natale. Ils se faisaient appeler les Blue Devils. Ils avaient été au préalable les musiciens d'un autre pianiste légendaire, Benny Moten, originaire de Kansas City dans le Missouri. Mon camarade et moi avons donc décidé d'imiter leur style, c'était le swing du sud-ouest américain. Au départ, nous n'avions aucune intention de nous professionnaliser, c'était plus un amusement pour nous. Puis, au fil du temps, on nous a proposé d'animer des bals et de faire danser le public. C'est ainsi que nous avons commencé à prendre notre rôle au sérieux. Mais au lycée, je voulais impérativement m'instruire, c'était une exigence que je mettais imposé. À l'issue de ma deuxième année scolaire, j'ai été engagé comme saxophoniste pour la première fois dans un orchestre local. Je n'avais aucune intention de devenir musicien. Pourtant, depuis cette époque, tout s'est enchaîné et je suis devenu jazzman professionnel. S'il a connu le succès dès la fin des années 40 avec le classique Cornbread, Al Singer a toujours mené de front deux carrières, celle du chef d'orchestre et du sideman, ou musicien d'accompagnement, dirions-nous en français.
It was very wonderful being a sideman.
Être un sideman était une bonne chose. J'ai ainsi pu jouer avec Roy Eldridge, Don Byas, Earl Bostic, Lucky Millender, Duke Ellington, et puis je n'avais aucun souci à me faire. Je me contentais d'aller bosser. Quand on est le leader, il faut prendre en charge la promotion, le choix des musiciens, les contrats d'engagement. Il faut savoir être diplomate avec ses acolytes, le public. C'est très difficile. J'ai parfois été leader de mon propre orchestre, mais je dois reconnaître avoir surtout accepté les sollicitations d'autres artistes. Je pense notamment à mon camarade tromboniste Sly Dompton. On ne devient pas un bon leader si l'on n'a pas été un bon sideman. Pour donner des ordres, il faut savoir les recevoir. Beaucoup de musiciens ont du mal à accepter cela. Quand je parle à mes enfants, j'essaie de leur faire comprendre que la vie est différente lorsque l'on devient adulte, parce que l'on a des responsabilités. Quand il faut payer son loyer, ses factures, remplir son réfrigérateur, c'est beaucoup plus difficile que lorsque ce sont les parents qui vous prennent totalement en charge. C'est la même chose au sein d'un orchestre. Le leader a toutes les responsabilités.
A good leader if you can't be a good follower. Because, you know, to give orders, you have to learn to take orders. It's much different than when mama and papa does everything.
Force de conviction, Al Singer finit par partager la scène avec ses héros. Et s'il se concentre sur son jeu et son rôle, aux côtés des pointures de l'époque, il peine à masquer son excitation face à des artistes d'une telle stature.
They became first acquaintance, but
Ils étaient des relations professionnelles, mais au fond de moi, ils étaient mes idoles. J'ai été très proche du trompettiste Roy Eldridge. Je vénérais cet homme. J'aimais aussi Johnny Hodges, Coleman Hawkins, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Max Roach. Je l'ai connu en 1944. À l'époque, j'habitais Brooklyn. Tous ces gens sont mes idoles, mes dieux. J'adorais leur musique. J'ai été un bon ami de Ben Webster. Il venait chez moi à New York et il jouait avec mes enfants. Mais à mes yeux, il restait Ben Webster, mon idole. J'avais la même impression avec Dizzy Gillespie ou Kenny Clarke. Même si je travaillais avec eux, même si j'ai vécu aux côtés de Kenny, pour moi, il était le grand Kenny Clarke.
It was still a relationship. Well, he is Kenny Clarke.
C'est en écoutant Al Singer égrener modestement les noms de tous ceux qu'il a connus que l'on prend conscience de sa place dans l'épopée des musiques noires et de notre chance de pouvoir l'entendre se raconter. De Duke Ellington à John Coltrane, il a accompagné tout un pan de l'histoire populaire afro-américaine. Au milieu des années 70, Al Singer réalise que son salut viendra d'ailleurs, hors des États-Unis. Alors, il tourne sans cesse, aux quatre coins de la planète, Asie, Europe, Afrique, Océanie. Il s'enrichit de ses nombreuses rencontres et s'il semble s'épanouir en compagnie de jeunes musiciens, il se fait aussi un devoir de leur transmettre l'héritage de l'ancien qu'il est devenu. Un vétéran trop heureux de pouvoir à son tour offrir à sa descendance le fruit de son expérience à travers la musique et les récits d'une histoire vécue. Ainsi, lorsque l'on questionnait Al Singer sur les figures d'antan, son visage s'éclairait soudain et les photos jaunies de son ami John Coltrane reprenaient des couleurs.
John Coltrane was a special in his belief.
John Coltrane était quelqu'un de très particulier, notamment dans ses croyances. Je l'ai connu alors qu'il jouait du rhythm and blues à la fin des années 40 à l'université. On connaît son parcours et ses dérives dans l'alcool et la drogue. Mais lorsqu'il a fait le choix de supprimer ses excès de sa vie, il est devenu un être spirituel, dans le vrai sens du terme. Beaucoup de gens disent être croyants, mais John était vraiment sincère. C'était un homme charmant, il avait toujours du temps à consacrer aux jeunes. Il a aidé de nombreux musiciens, il les a fait jouer sur ses albums. Il les a fait enregistrer pour que leur nom apparaisse sur des pochettes de disques quand les labels rechignaient à les signer. Et en plus, John les payait de sa poche. C'est plutôt rare comme attitude. Ce genre de personnalités sont pour moi sur un piédestal. Avant d'arriver à New York, j'avais écouté tous ces géants du jazz à la radio. Je les adorais, je les admirais et je les respectais. Dire que des années plus tard, je me suis retrouvé à leur côté. Et pourtant, je n'ai jamais perdu cet émerveillement d'enfant à leur contact. J'ai percé dans ce métier après ces légendes. Ils ont donc beaucoup plus souffert que moi, même si je sais ce que veut dire le mot souffrance. Cette période de l'histoire du jazz restera gravée dans les mémoires, tout simplement parce que je ne parviens toujours pas aujourd'hui à imaginer qu'un jeune talent puisse surpasser un Thelonious Monk, un John Coltrane, un Duke Ellington, un Coleman Hawkins, un Lester Young ou une Billie Holiday. Je ne vois pas venir la génération montante. Elle est peut-être déjà là, mais je ne la perçois pas. Malheureusement, de nos jours, ce sont les médias, les critiques qui décrètent qui est la star. Quand j'étais gosse, c'était les musiciens entre eux qui dressaient le palmarès. Louis Armstrong encensait Roy Eldridge ou Coleman Hawkins. Les musiciens ne portaient aucune attention à ce que pouvait dire un journaliste. On se débrouillait très bien tout seul. Je me souviens de disputes sévères à propos de Billie Holiday, Dinah Washington ou Ella Fitzgerald. On se querellait sans cesse pour savoir qui était la meilleure d'entre elles. Le plus drôle, c'est que tous ces types qui s'affrontaient pour avoir le dernier mot étaient les meilleurs amis du monde et le public le savait bien. C'est comme tous ces règlements de compte en famille devant un match de foot. On est prêt à se taper dessus pour une équipe ou pour une autre. C'était un peu ça à l'époque. Derrière ces propos passionnés, c'est toute une vie de jazzman qui s'anime avec ses joies et parfois ses douleurs. Lorsque Al Singer évoque sa sœur de cœur, Billie Holiday, il pèse chacun des mots qu'il prononce.
When somebody is dead, you seem to forget any of the faults.
Quand quelqu'un nous a quittés à jamais, on préfère se souvenir des bons aspects et oublier les erreurs passées, que ce soit en politique, dans le milieu de la musique ou ailleurs. C'est peut-être mieux ainsi. On n'a pas forcément envie d'entendre que telle ou telle personne était un drogué ou un alcoolique. On préfère zapper sur les aspects négatifs d'une vie et s'attarder sur ce qu'elle vous a apporté. De toute façon, ils étaient responsables de leurs actes et se blessaient eux-mêmes. Ils ne faisaient aucun mal aux autres. Ils étaient leurs pires ennemis. Vous savez, je pense que si Billie Holiday n'avait pas subi une telle pression de la société, elle n'aurait peut-être pas exprimé autant d'émotions à travers sa voix. Peut-être ai-je tort, mais je considère que les gens qui ont connu l'oppression sont capables d'exprimer des sentiments bien plus profonds que ceux qui ignorent cette réalité-là. Être noir aux États-Unis, c'est un statut effroyable. Vous ne pouvez imaginer. Il y a tant d'injustices, toujours aujourd'hui. Je ne me suis jamais senti libre. J'aurais bien aimé, je vous assure. Disons que j'ai découvert le mot « liberté » ici, quand j'ai choisi de résider en France. Là, j'ai enfin été respecté. J'ai pu vivre comme un être humain.
I found my most freedom, and that's why I stayed here, and I've enjoyed France, because I've been very well respected in France, and have been able to live like a human being.
Cette langueur mélancolique est l'œuvre de Duke Ellington, qui avait composé ce grand classique en 1935 avant de le réenregistrer en 1962 avec John Coltrane. 40 ans plus tard, Al Singer revitalisa ce standard, In a Sentimental Mood, sur son propre album We're Still Buddies, en y injectant cette part de blues que tous les jazzmen afro-américains ont en eux. Al Singer a continué à se produire à un âge très avancé. À 90 ans, il était encore en studio avec le saxophoniste David Murray pour enregistrer l'album Challenge. Tant que sa force vitale lui permettait, il voulait poursuivre sa route, même s'il commençait à faire le bilan d'une très longue carrière. Quand on est parvenu à un certain stade de son existence et que l'on se penche sur le passé, on se dit toujours « j'aurais pu faire ceci ou cela ». Mais ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les choix que vous avez faits à l'époque. Vous n'aviez pas conscience de ce que serait votre futur. Vous avez donc pris des décisions sur l'instant présent. Si nous avions tous la possibilité de connaître l'avenir, nos actes seraient totalement différents. De toute façon, je n'ai jamais considéré être un personnage important. Je ne suis qu'un musicien honorable. Je suis juste heureux d'avoir pu partager des moments privilégiés avec quelques personnalités de l'épopée des musiques noires et de pouvoir en être fier aujourd'hui. Je suis toujours très reconnaissant envers l'ancien ministre de la Culture français, Jack Lang, qui m'a remis la médaille de chevalier des arts et des lettres dans les années 80. J'ai également beaucoup de respect pour l'administration américaine qui m'avait envoyé comme ambassadeur dans les pays africains au moment des indépendances. J'avais pu rencontrer des personnalités de haut rang, mais surtout j'avais pu jouer pour les populations de ces pays qui devenaient maîtres de leur destin. Avoir l'opportunité de se produire à l'étranger est une chance pour un musicien. Si vous restez trop longtemps chez vous à parfaire votre technique, c'est très mauvais signe. Je suis donc heureux d'avoir parcouru le monde.
To have met some of these heads of state and had the honor of talking with them. To be able to play, I think this is a great thing for a musician because if you don't play but any place in your home, I think it's pretty sad.
Quelques notes de Dreams of Dream, extrait de Challenge, le dernier album en date d'Al Singer, paru en 2010. Rares sont les musiciens à avoir traversé un siècle de musique. Al Singer est l'un d'eux, et lorsque l'on pioche dans son imposante discographie, c'est toute l'histoire du jazz qui rejaillit, comme dans cet enregistrement de Cornbread en 1948. Le rock'n'roll n'existait pas encore, mais déjà, dans le saxophone d'Al Singer, on perçoit les effluves d'un genre musical qui va révolutionner la planète. Al Singer en 1948, les prémices du rock'n'roll balbutiant, peut-être inventé par ce saxophoniste d'une rare humilité que nous voulions saluer à l'occasion de son centenaire. La semaine prochaine, c'est une autre personnalité née en 1919 que nous allons célébrer. Il s'agit du batteur Art Blackie, qui aurait eu 100 ans également le 11 octobre 2019. Cette grande figure de l'épopée des musiques noires a été un formidable instrumentiste et découvreur de talents. Nous vous raconterons son histoire dans 8 jours. Quelques rendez-vous à noter avant de se quitter. D'abord, le festival Jazz sur scène qui débute le 11 octobre dans 25 clubs de la région parisienne. 180 concerts au total sont prévus jusqu'au 26 octobre et notamment ceux de Sugar Ray Rayford, Kelly Lee Evans, James and Black, Theo Crocker, Kyle Eastwood, le fils de Clint, Steve Coleman, Mario Canonge, Habib Kouaté, Patrick Bébé, Michel Hendrix, etc., etc. 450 musiciens vous attendent donc du 11 au 26 octobre dans les clubs de Paris et d'Île-de-France. À l'est de la France, précisément à Nancy, la 46e édition des Nancy Jazz Pulsation commence le 9 octobre avec pendant 10 jours un programme très éclectique qui ira d'Angélique Kidjo à Raphaël Sadiq en passant par Boubacar Sissoko, Lee Fields, Jean-Luc Ponty, Omar Sosa, Madison McFerrin, la fille de Bobby, Michel David et bien entendu, nous nous ferons l'écho de quelques-uns de ses concerts. Et je terminerai avec la date du 17 octobre, le Safari Symphonique de Manu Dibango au Grand Rex à Paris, un rendez-vous incontournable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Nathalie Laporte qui a ravivé les archives et la voix d'Al Singer. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.